Bonjour chers auditeurs, merci d'être là, merci pour les écoutes, merci pour les 5 étoiles sur Apple Podcast et les autres plateformes, merci pour les commentaires que vous pouvez mettre sur vos plateformes d'écoute de podcast, merci pour votre soutien. Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, me soutenir en vous abonnant aux formules Papatriarcat Plus qui vous permettront d'accéder à du contenu sans publicité et du contenu bonus. Les liens sont en description des épisodes. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Il y avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Isia. Isia a 22 ans, elle a connu l'instruction en famille et elle a connu le collège et le lycée. Elle va donc nous raconter son parcours. Et nous allons aborder des sujets différents, tels que la vie en instruction en famille, comment ça se passe quand ça s'arrête et qu'on veut reprendre les cours, l'importance des associations, que ce soit les associations d'instruction en famille, mais aussi la vie associative dans les structures de l'éducation nationale, et nous allons aussi parler de confiance inconditionnelle. Je tenais aussi à vous fournir des témoignages qui sont sans complaisance et qui vraiment évoquent les difficultés et les réussites que l'on peut avoir lorsque l'on fait le choix du chemin de l'instruction en famille, avec eh bien, la possibilité aussi d'une rescolarisation. Je remercie beaucoup Isia de m'avoir confié son témoignage, nous avons passé un excellent moment à discuter ensemble, merci encore, et je la laisse maintenant vous conter son histoire.
Mes parents, tous les deux, ont des parcours vraiment dans les clous, dans les cases de l'éducation nationale, avec mon père notamment, qui a été vraiment en rupture scolaire assez rapidement. Je pense qu'il a battu des records de présence en long terme au lycée, puisque je crois qu'il a refait 2 secondes, 2 premières, 2 terminales, enfin bon voilà. Donc avec des parcours un peu chaotiques au niveau du scolaire, mais dans du classique. Au moment de ma venue au monde, c'était, je pense, des petites graines qui ont été semées par-ci, par-là. Ils étaient déjà dans des choix qui tendaient vers l'alternatif de vie, en tout cas. Et par le biais de rencontres, par le biais de livres, par le biais de ressentis, assez rapidement, donc je crois que j'ai fait une année de crèche, mais assez rapidement, ça a été une évidence que pour eux, en tout cas, l'école, dans sa forme brut, traditionnel, ça leur convenait pas. Par la suite, on a eu la chance d'être voisins vraiment de l'appartement du dessous d'une autre. C'était une famille qui pratiquait l'instruction en famille. Donc ça a été une vraie rencontre qui a permis ce cheminement-là aussi. Et du coup, de se sentir vachement moins seul sur les départs. Donc on s'est lancé dans ce projet-là, avec une envie de voyage, avec des envies de milieux alternatifs. Donc mes parents ont commencé vraiment à se tourner vers des lieux de vie alternatifs, de lieux en collectivité, sur des ce qui aujourd'hui on appelle un peu des éco-villages. Et donc moi j'ai grandi dans tout ce climat un peu particulier, mais avec une richesse assez incroyable, et notamment dans un lieu qui était une vallée entière, donc avec des potagers, des animaux, et puis plein de gens qui passaient de plein de cultures différentes. Donc ça a été extrêmement riche dans toute la partie de mon enfance, jusqu'à voilà, mes 8 ans, je crois. Sur cette même période-là, j'ai eu la grande chance de voyager beaucoup, puisque mon père, suite à un héritage, a acheté un camion. Donc on a fait des voyages qui étaient vraiment hors des sentiers touristiques, sur des voyages au Maroc notamment, sur un lieu que j'ai beaucoup vécu, pendant plusieurs mois, et avec des projets notamment sur un voyage où on a fait un cinéma itinérant avec des films de Charlie Chaplin. Du coup, il y a eu vraiment des projets de moments partagés qui étaient hyper forts. Et donc par la suite, les chemins de mes parents se sont un peu divisés. Ma mère avait besoin de revenir vers des choses qui, elle, lui apportaient plus en tant qu'individu, et qu'elle avait besoin d'un peu délester la casquette maman. Et du coup, elle est revenue vers des sentiers plus classiques. Mon père, ça lui parlait aussi de revenir sur des choses. Il avait envie de monter une association autour de l'arbre et de la greffe et des savoirs fruitiers. Donc, ils avaient tous les deux des projets personnels qui ont vu le jour et qui étaient hyper épanouissants pour eux, je pense. Mais du coup, on est revenu vers un schéma vachement plus classique d'un appartement en ville, avec deux parents qui ont des projets professionnels, et du coup, un éloignement, moi, de ceux que j'avais toujours connus, finalement. Et ça a été très, très difficile à vivre. Donc, ça a été pour l'âge de mes 10 ans, quelque chose comme ça. Ça a été un déménagement qui a été d'une brutalité extrême à mon niveau d'enfant, que j'ai mal vécu et où j'ai été vraiment dans un moment d'isolement et de retranchement sur moi-même, malgré les X activités extrascolaires que je faisais. Je crois que j'en faisais au moins une par jour. Donc voilà, à l'époque, j'ai fait du théâtre, du piano, du cirque, de la danse, du hip-hop, de l'escalade, de l'équitation. Enfin bon, ça ne s'arrêtait plus. Mais vraiment, c'était un moment qui était compliqué. Et de toute cette période un peu sombre, alors j'ai eu des vrais moments de relâchement que je remercie une association en particulier à ce propos qui s'appelle Les Enfants d'abord, qui fait partie des associations, parce qu'il y en a beaucoup qui réunit des familles déscolarisées. Moi, c'est une asso avec laquelle j'ai grandi pour le coup, parce que même bien avant ce déménagement, on en faisait partie. Et où j'ai rencontré tous ceux qui sont aujourd'hui mes amis d'enfance et qui sont une bande enfin voilà, on a passé 10 ans où tous nos étés, toutes nos vacances, entre guillemets, même si elles n'étaient pas sur les schémas rythmés des vacances scolaires, c'était nous dans un camping en mode on fait ce qu'on veut, et donc c'était vraiment des super souvenirs. Mais dans la quotidienneté, je manquais cruellement de sociabilisation, oui et non, mais en tout cas d'un milieu dans lequel moi je m'épanouis. Et ça a été très difficile. Ça a été difficile parce que c'est quelque chose que j'ai assez vite exprimé, mais où mes parents, ils étaient dans un vrai conflit entre ce qu'ils avaient envie, eux, pour eux de faire et ce qui leur semblait possible pour moi. Enfin, ça a été vraiment une période qui était compliquée pour nous tous parce que bah, c'est pas évident en tant que parent, je pense, de faire des choix qui peuvent sembler d'un point de vue extérieur égoïste, ou en tout cas du point de vue de l'enfant égoïste, et en même temps de dire, mais en fait, moi, si je fais pas ça, je vais être malheureux, et du coup, je ne serai pas le parent que j'ai envie d'être. Donc ça, voilà, ça a poussé tout le monde dans ses retranchements. De toute cette période très sombre est sorti mon choix de rescolarisation. Donc à 13-14 ans, je suis sortie de là en me disant, bah voilà, j'ai décidé de déménager à Marseille, on n'était pas du tout dans la région, je vais vivre chez ma marraine, je me suis inscrite dans une école dite alternative. Je reprends les cours. Voilà, j'ai besoin de sous et de votre encouragement. C'était un peu ça. Donc mes parents, enfin j'ai la chance d'avoir deux parents qui ont toujours eu une foi en moi assez incommensurable et du coup une confiance en mes choix qui était un vrai cadeau. Donc ils m'ont suivie, ils m'ont soutenue là-dessus. Ils ont payé cette école qui était, alors c'est pas des sommes astronomiques, mais ça restait, je crois, un budget pour notre porte-monnaie qui était clairement pas. Je fais pas du tout partie d'une classe haute, entre guillemets. Donc nous, on a toujours eu des bas revenus et on a toujours été considérés comme plutôt la classe pauvre, même si je l'ai jamais ressenti. Mais bon, du coup, ça a été une vraie demande financière pour eux. Donc je suis rentrée dans un collège dit privé hors contrat. Donc, qui sont hors contrat de l'éducation nationale et donc qui n'ont pas besoin de répondre aux exigences de l'éducation nationale, puisqu'ils ne touchent pas d'aide de leur part. Sauf qu'en fait, je pense que là où je me suis plantée, c'est que c'était une école qui avait vraiment envie, enfin, qui rattrapait des enfants qui sortaient. Et moi, j'étais dans une dynamique complètement différente, puisque je voulais rentrer. Et donc, j'étais pas du tout dans
Dans
un déni de
l'éducation,
l'école.
dans
Ouais.
l'éducation, c'est
Je
ça,
voulais rentrer dans un choix de scolarisation, en tout cas.
ouais.
Et du coup, je pense que je me suis retrouvée avec beaucoup d'enfants qui étaient dégoûtés du système classique, qui avaient plus envie d'apprendre, qui avaient plus envie de ce rôle de prof à apprenant. Enfin, c'était des choses qui les remettaient en colère, qui étaient dans des mal-être absolus. Et moi, c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt ce truc de je voulais des profs, je voulais qu'on m'apprenne, je voulais découvrir. Et du coup, il y a eu une rupture entre cette école et moi. Donc ça n'a pas fonctionné. Assez rapidement, j'ai arrêté. Et du coup, voilà, j'ai passé un an à Marseille, donc au début dans cette école. Après, je suis un peu revenue. Mais où du coup, j'ai mûri encore ce projet. Et j'ai fini par décider de continuer à Marseille, mais dans le collège du secteur traditionnel, vraiment classique, dans lequel je suis rentrée en troisième. Alors pareil, rentrée qui a été un peu compliquée, mais qui s'est passée. Après des envies certaines de pas du tout me mettre dans le système classique, plutôt dans des classes spécialisées, plutôt dans des choses qui vireraient vers le professionnel. Enfin bon, dans une peur certaine de mon niveau, qui était réelle, hein, j'avais vraiment pas le niveau de troisième. Mais après quand même pas mal de mots entre mes parents et la directrice, entre plein de choses, je suis rentrée en troisième classique. Avec un peu un espèce de deadline du premier trimestre, et si vraiment c'était catastrophique, une reconsidération de la situation. Or, je suis sortie de mon premier trimestre, j'ai plus mes bulletins, mais je pense que je devais avoir 12 ou 13 de moyenne générale, avec comment on dit, des appréciations assez incroyables, et j'étais à fond, quoi. Et puis je me sentais vraiment comme un poisson dans l'eau, alors j'ai monté une espèce d'association de collégiens, on a fait le premier bal de fin d'année du collège, j'étais à fond, j'étais au taquet, et donc j'ai eu mon brevet, alors ras des pâquerettes, mais je l'ai eu.
Tu l'as eu, voilà.
Et donc de là s'ouvrent à moi les portes du lycée et de la seconde générale, et j'ai intégré le lycée de manière la plus anonyme possible, parce que hors au collège, tous les enseignants connaissaient mon parcours, tout le monde avait été briefé, tout le monde savait qu'il y avait un ovni qui débarquait. Au lycée, ça n'a pas du tout été ça, et c'était de ma volonté, hein. Même la proviseure n'était pas au courant. Et ça a été, là, pour le coup, une catastrophe. Hein. Ça a été, en fait, la problématique, c'est qu'en seconde, on revoit tout le parcours du collège. Donc, les professeurs n'arrêtaient pas de faire référence à des choses que j'avais jamais vues. En mathématiques, c'était une catastrophe. Je m'en sortais pas du tout. Et je me suis sentie complètement démunie, isolée et dans une incompréhension totale. Puis, en plus, on reste quand même dans une petite ville, donc tout le monde se connaît. C'est vrai qu'à Marseille, il y a quand même l'anonymat de choses qui tournent beaucoup. Donc ça a été un peu compliqué. Je pense qu'en seconde, c'est la psychologue scolaire qui m'a rattrapée au vol, sinon j'aurais abandonné, enfin j'aurais fait d'autres choses. Mais donc j'ai
Ouais,
quand
ça
même
avait l'air
continué
vraiment,
ma...
vraiment compliqué.
Ouais, je pouvais pas, je m'entendais avec personne et avec aucun de mes professeurs. Enfin bon, ça l'a pas fait du tout. Donc sur la seconde, c'est enfin, ma psychologue scolaire qui m'a rattrapée au vol. Et après, ça a été encore une fois les associations lycéennes où je me suis dévouée corps et âme. Et où j'ai vraiment passé du temps extraordinaire là-bas. Et donc c'est que ça qui m'a maintenue, qui a fait que j'ai jamais été une élève incroyable, mais je faisais le boulot, quoi. Je pense que la seconde m'a vraiment, il y a eu à ce moment de, ah ouais, en fait, c'est ça l'école et ouais, c'est moyen, quoi. Mais j'avais envie de continuer, j'avais envie de me dire que je l'avais fait. Et c'était important pour moi. Et puis en plus, plus le temps passait, plus j'avais envie de faire des études supérieures. Donc ça allait de fait. Et du coup, voilà, j'ai fait ma scolarité un peu ras des pâquerettes, mais enfin, ras de, j'exagère, je devais être à 12-13. Et par contre, avec une implication lycéenne qui était assez impressionnante, en tout cas pour eux. Et voilà. Et donc j'ai eu mon bac, encore une fois. Pas sans difficulté, parce qu'il y a eu plein de problèmes administratifs, comme quoi, des fois, il y a des parcours qui sont faits pour être
Des
acharnés.
problèmes administratifs.
Oui, je me suis retrouvée dans des épreuves qui n'étaient pas les miennes. Je me suis retrouvée à des oraux sur lesquels je n'avais pas statué. Enfin, ça a été une catastrophe. Ça s'est fini en recours auprès du rectorat. Enfin, c'était quand même très particulier comme bac.
Oui, tu m'étonnes.
Voilà, il y a eu des erreurs d'inscription, mais qui sont absolument rien à voir avec mon parcours. Mais bon, donc j'ai eu mon bac de manière compliquée, mais je l'ai eu. Et après, je suis allée en fac de psychologie, où pareil, ma soif d'apprendre n'a pas forcément été très. Enfin, où je me suis retrouvée bah, toujours un peu dans les mêmes problématiques, avec des gens qui n'ont plus trop envie, des gens qui sont un peu dégoûtés de l'apprentissage, des enseignants que je trouve pas autant passionnés que ce que j'aurais voulu. Et donc j'ai continué mon bout de chemin en me disant bon bah un jour je vais finir par rencontrer des gens que je trouverais passionnants. En attendant je fais mon chemin. Là je viens de valider ma licence et j'en suis là dans mon parcours de vraiment de la partie scolaire.
Et t'as rencontré des gens passionnants alors ou pas?
Alors je commence mais c'est pas par le
Ah.
biais de l'éducation nationale en général. Hein. Donc
D'accord.
voilà j'ai par le biais de mes études j'ai eu la chance. Enfin non j'ai fait en sorte de faire beaucoup de stages. Donc j'ai rencontré des gens passionnants par le biais de mes stages qui me permettent de construire mon projet professionnel petit à petit. Mais c'est sûr que j'ai été vraiment déçue de la faculté, je crois.
Ouais.
C'était ça. Voilà, je pense que j'avais vraiment plein de rêves que j'ai toujours et que je continue à avoir, mais qui voilà, font qu'on est dans un. Enfin, que le milieu actuellement de l'éducation nationale, des études supérieures, est tellement complexe et tellement fatigant pour tout le monde que même la personne la plus passionnée du monde finit assez vite par être fatiguée.
Ok, ouais, c'est une vision super intéressante. Ça m'interpelle vraiment hein, quand tu dis que toi, ce que tu cherchais et ce que tu cherches, ce sont des gens passionnés, passionnants. J'ai l'impression qu'il y a ce mot qu'on aura utilisé dans le premier épisode de la saison 2, qui est l'enthousiasme, qui me semble quand même être important dans ce que tu évoques dans ton parcours, parce que tu me dis hein, si je suis dans l'erreur. Hein. Toi, tu as un enthousiasme, et de ce que j'entends, tu n'as pas la même chose en face. Et cet enthousiasme, tu as pu le vivre, que ce soit au collège ou au lycée, à travers les associations. Visiblement, ce n'était pas le cas pour les matières
Non,
scolaires
après
classiques.
en fait, je pense que moi j'ai souvenir de. Enfin, sans me jeter des fleurs de quoi que ce soit, c'est pas trop mon caractère, mais quand je vois les retours, notamment que j'ai pu avoir de mes enseignants au lycée, j'ai des enseignants qui ont jamais pu me voir. Mais vraiment, hein, enfin, je veux dire. Et puis en plus, comme je siégeais partout, c'était compliqué de le dire sans que je sois là. Du coup, voilà. Vraiment, je posais problème parce que dans une. Parce que j'ai toujours été vraiment une élève, pour le coup, au niveau du comportement, on n'a jamais rien pu me reprocher, mais j'ai jamais été quelqu'un qui vouait une espèce de respect absolu à mes enseignants, dans le sens où je les
Ouais.
respectais de la même manière que je respecte n'importe quelle personne que je côtoie, qu'elle ait 3 ans et demi ou 89 ans, et où ça posait un vrai problème. Parce que j'estimais que, alors sans l'ombre, j'ai jamais estimé que je savais plus. Mais par contre, je pouvais apprendre autant qu'on pouvait m'apprendre. Et du coup, de parfois de remettre des choses en disons, de notions absolues, qui pour moi n'étaient pas absolues, et où juste je le mettais en relief ou en corrélation avec d'autres choses, et où ça posait vraiment des problèmes aux enseignants dans le côté vraiment. Alors c'était compliqué parce qu'on ne pouvait pas vraiment mettre de mots dans le carnet pour comportement, mais où en même temps, ça, il y avait un truc qui coinçait parce que ça j'étais pas comme tous les enfants, enfin comme une espèce de généralisation qu'on se fait de l'élève, et que je rentrais pas dans ce moule-là, même si franchement j'ai joué le jeu. Et puis parce que mon engagement, notamment au lycée, a pris tellement de place que c'était incompréhensible pour les enseignants que je favorise la réunion du conseil d'administration de la cantine à mon heure de mathématiques. Et que en fait je le et que alors et en plus ce qui était insupportable pour eux, c'était que mon père ne répondait jamais au téléphone, et les rares fois où il répondait, c'était pour dire que je faisais bien ce que je voulais. Alors du coup ça les rendait un peu, ils se sentaient un peu impuissants face à la situation, et donc ils comprenaient bien que j'étais soutenue dans mes projets, alors que pour eux c'était complètement aberrant ce que j'étais en train de faire. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui ont fait que mes enseignants ont eu énormément de mal avec moi, alors qu'à l'inverse, d'autres avec qui j'ai encore aujourd'hui des liens. Des gens avec qui je peux encore envoyer des mails sur des trucs, sur des sujets, sur ah, j'ai lu un article super chouette. Enfin, et du coup, ça rendait mon parcours, mon profil de manière assez étrange. Et du coup, avec un espèce de. Mais où en fait, bah, j'étais soutenue par certains corps enseignants. Alors, malheureusement, je me suis fait beaucoup d'amis chez les professeurs de enfin, scientifiques, de SVT, de biologie, etc. Et pas du tout dans les matières littéraires. Or, je suis partie en L. Donc forcément, ça arrangeait pas mes affaires. Mais en attendant, voilà, dans les différentes instances ou conseils où il pouvait apparaître mon nom, eh ben, il y avait la proviseure qui m'a assez vite adorée, en fait. Je connaissais toute l'administration par cœur. Je connaissais tous les agents techniques de mon lycée. Et donc, ça me rendait un peu cette espèce de position un peu intouchable, et où j'assumais mes choix, que en fait, j'étais hyper intéressée par les matières, mais que j'allais pas me forcer en fait, et que si je trouvais qu'il y avait quelque chose de plus important, eh ben j'allais aller vers la chose la plus importante. Et s'il y avait une réunion qui me semblait plus importante que ce cours-là, eh ben j'allais à la réunion qui me semblait plus importante. Et c'était ça qui était très compliqué au lycée. Je me souviens, en terminale, je suis passée en conseil de discipline. Alors parce qu'il y avait l'échéance du bac, et que pour eux, je devais quitter mes fonctions d'élu aux différentes instances lycéennes. Et donc, on a essayé de m'expliquer 25 milliards de fois que c'était pour moi que j'étais là. Ça a été hyper douloureux. Et où, en fait, moi, j'ai juste positionné en me disant que si je ne resterais pas au lycée, si j'avais pas cette bouffée d'oxygène. Pour moi, et là c'est mon caractère, ça a toujours été hyper compliqué, la sociabilisation, le monde, le bruit, le brouhaha, tout ça, c'est quelque chose qui me prend une énergie folle. Et si j'avais pas ce lieu, mon petit bureau d'élu lycéenne où je faisais tous mes petits projets et tout ça, et si j'avais pas ce petit truc-là où je me sentais bien à l'aise, confiante, je voyais pas l'intérêt de continuer le lycée. Et donc ça les a mis vraiment en difficulté. En attendant, j'ai validé mon bac malgré les on dira-t-on. Et alors, le petit pic de nez aujourd'hui, c'est que je suis devenue conseiller municipal. Et donc, j'ai continué mon petit bout de chemin dans les instances, mais à une autre échelle. Et je ne serais jamais devenue conseillère municipale si la mairie n'avait pas entendu parler de moi de par le lycée. Donc,
c'est
le côté drôle de l'histoire, c'est que en fait, j'ai eu entre guillemets raison de me faire confiance là-dessus parce que c'était quelque chose qui me parlait. C'est quelque chose qui me passionnait et aujourd'hui ça me permet d'être épanouie encore à une autre échelle et je regrette pas. Mais je pense que j'ai été un ovni du bout en, enfin du de l'arrivée au collège à mon baccalauréat, j'ai été un ovni pour tout le monde.
Alors je pense qu'il est évident en effet que qu'un enfant, une enfant qui a connu le parcours que tu as connu et qui tout à coup se retrouve dans une structure où il est attendu. Je vais pas dire par toute l'éducation nationale parce qu'il y a quand même des profs qui sont, moi aussi j'ai des souvenirs de profs qui m'ont tellement fait avancer, mais où une certaine population de l'éducation nationale attend que tout simplement tu boives leurs paroles et en étant capable de la recracher tout simplement sur du par cœur. Puis il y a une autre partie de l'éducation nationale qui cherche à te faire réfléchir, qui aime bien justement quand tu vas remettre en question aussi, tu vois, pas remettre en question, mais quand tu vas confronter leur point de vue, leur argumentaire, justement avec un regard différent.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Toi, t'es arrivé dans ces structures-là, finalement, avec un rapport d'égalité entre les êtres, quoi, c'est ça? Peu importe l'âge,
oui,
la fonction...
Moi, j'avais... Enfin, du coup, et là, c'est au-delà de l'école à la maison, c'est que... le fait d'avoir fait l'école à la maison, j'étais avec mes parents, ou en tout cas dans le milieu de mes parents tout le temps, et notamment dans des milieux de vie collectifs, où du coup, j'ai côtoyé énormément de personnes, et j'étais bien sûr la plus jeune, mais de 20 ans, j'ai envie de dire, de d'écart, parce que voilà, moi, j'étais une jeune fille qui avait, de mes 4 à mes 10 ans, j'étais un espèce de petit bout d'enfant qui se baladait partout, qui était devenu responsable du poulailler avec 50 poules, qui était devenu... Enfin, voilà, j'avais mon histoire, mon truc, et où en fait, la question, c'était même pas posée, en fait. J'étais là, je faisais mes trucs, et où j'avais toujours eu cette... Et puis parce que pour mes parents, c'était une vraie philosophie de... Alors, avec les travers que ça peut avoir aussi, mais où, en tout cas, on me considérait comme un individu sans avoir une problématique d'âge, etc. Finalement, moi, quand je regarde l'histoire de mes parents, il y a énormément de choses qu'ils ont mis en place, mais par instinct, par écoute d'eux-mêmes et de leur enfant, mais il n'y a jamais eu de littérature autour. Donc, la DME, je suis persuadée qu'ils l'ont fait, mais sans jamais la lire. Le portage, c'est pareil, mais sans jamais savoir quelle marque d'écharpe était plus à même de porter leur bébé, parce qu'en fait, mon père, il a toujours eu un espèce de lien avec son enfant, donc il voulait le porter tout le temps, et c'était vachement plus confortable de me mettre dans un tissu. Mais tout ça, voilà, c'est des... Et donc, c'est drôle de... Enfin, c'est plein de choses qui, du coup, aujourd'hui, petit à petit, sont de plus en plus démocratisées, mais où moi, à l'échelle de, donc, il y a 22 ans avant, ça restait encore hyper novateur, et puis il n'y avait surtout aucun témoignage autour de... Alors, de l'école à la maison, ça arrivait, petit à petit, mais c'était quand même... c'était souvent d'autres pays que la France, hein. Et il y avait peu de figures d'enfants, de grands-enfants d'école à la maison. Et alors, et encore moins de toute la partie parentalité des VO et des machins et des tutti quanti, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, quand je lis ces livres-là, ça fait sens avec ce que j'ai vécu. Et je sais que mes parents ont eu cette envie d'accompagnement bienveillant, mais je pense que tout parent est bienveillant, mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que mes parents, ils ont vraiment été dans cette démarche-là, sans avoir lu quoi que ce soit, et du coup, avec plein d'erreurs. Et je pense que ça n'empêche pas, le fait de lire n'empêchera pas de faire des erreurs, mais en tout cas, vraiment à tatillon et avec ce truc d'expérience. Et moi, enfin, du coup, je bifurque sur un autre sujet, mais l'école à la maison, c'est très vaste. Il y a plein de façons de faire l'école à la maison. Quand mes parents ont décidé de m'instruire à domicile, il n'a jamais été question de faire du unschooling pur, de l'apprentissage autonome, etc. C'était pour eux, ils allaient me faire des leçons, des cours, etc. Parce que c'était ce qui semblait le plus logique quand encore une fois, on manque de gens autour, de contenu, de littérature. Et c'est par le biais de hurlements et de pleurs et de cris qu'on est arrivé à autre chose. Et ça n'a que été des cheminements par l'expérience, en fait. En plus, je suis enfant unique, alors c'est moi qui ai récupéré toutes les expériences. Moi, je suis hyper reconnaissante par rapport à mes parents d'avoir suivi leur instinct, de pas justement être restée dans les carcans de ce qui semblait être ce qu'il fallait faire à l'époque, sans justement avoir ces appuis de littérature et juste de se dire, bah voilà, en fait, nous, on le sent mieux comme ça. Et là, typiquement, je faisais écho à des cris, mais parce que j'ai quand même une anecdote que j'aime raconter parce qu'elle est pour moi, elle est imagée par rapport à mon histoire. Je suis arrivée en apprentissage complètement autonome et en unschooling total à partir du moment où, en gros, mon père voulait m'apprendre les maths et c'était la période d'apprentissage à compter, donc il fallait passer après le 10, donc du 10 à 20. Et je bloguais sur le 13 et le 14 que j'inversais constamment. Voilà, je passais d'abord le 14 avant le 13. Ça a rendu fou mon père qui comprenait pas que je puisse bloquer là-dessus. Donc il répétait 13-14, je lui disais 14-13 en le regardant, en étant persuadée de ce que je disais. Donc ça le rendait fou. De là, et en fait, l'histoire c'est que pour faire ça, il était venu me chercher dans un potager où j'étais à fond sur les différentes couleurs de tomates. Et donc j'étais en train de découvrir qu'il y en avait des violettes, des rayures, des machins. Je trouvais ça incroyable. Et donc j'étais à fond là-dedans. Et lui, il est venu interrompre ce moment pour arriver sur des apprentissages formels de mathématiques. Et c'est parti, mais vraiment très vite, on a perdu notre patience tous les deux. Et du coup, à crier, moi je pleurais. Donc mon père, pris à la gorge de par mes émotions à moi, n'arrivait pas du tout à vivre les siennes. Enfin, c'était un moment vraiment pas chouette. Et ça a été le déclic total pour mon père, pour de dire, mais en fait, moi, c'est pas ça que j'ai envie de vivre. J'ai envie qu'elle puisse vivre ses histoires de tomates, et puis si un jour elle a besoin de dire 13-14 dans le bon ordre, elle viendra me chercher. Mais encore une fois, tout ça n'a été que par le biais d'expérience. Et donc,
Ouais.
ça explique aussi le parcours un peu plus chaotique.
Moi, je trouve ça. Enfin, il y a quand même un truc, si tu veux, qui m'interpelle dans tout ça. Tu parles d'expérience, tu parles de. Bon, évidemment, il y a beaucoup d'amour dans tout ça. C'est. On a même, presque même pas besoin de le dire, mais il y a un mot que tu as utilisé tout à l'heure. Le vrai cadeau que t'ont fait tes parents, c'est cette espèce de confiance incroyable qu'ils avaient en toi tout le temps. C'est un sujet qui revient très régulièrement, la confiance, notamment dans tous les focus que j'ai pu faire à Virginie de Bougri-Bouillon, vraiment c'est ce sujet de confiance, confiance envers l'enfant, confiance aussi envers soi-même, tu vois, de ce qu'on ressent en tant que parent. Et c'est extrêmement intéressant d'entendre ce témoignage de gens qui, comme tu le dis, n'avaient pas de littérature, n'avaient pas de... Enfin, ils faisaient tout au pifomètre, quoi. Et la confiance fait que ça peut marcher, quoi.
Mais
Tu vois?
surtout que, comme je disais tout à l'heure, j'en parlais avec ma maître de stage, parce que j'ai travaillé sur un stage avec des projets alternatifs. Moi, je lui disais, pour moi, en fait, c'est là que le déclic, parce que, donc on parlait d'école alternative, et on se disait que dans tous les cas, en fait, c'est justement le moment où en tant que parent, tu es poussé dans tes retranchements de confiance, que le moment où en fait ton enfant il n'arrive pas à lire ou à écrire au bon âge qui est décidé par l'organigramme, et ben c'est le moment où tu es poussé vraiment dans tes limites et dans tes peurs fondamentales de mal accompagner ton enfant, que soit tu continues, soit tu arrêtes. C'est vraiment, pour moi, c'est ce moment-là hyper crucial de Soit j'arrive, et c'est pas grave d'arrêter. Hein. Pour moi, je suis vraiment pas pro école à la maison. Je raconte mon histoire et je sais même pas laquelle sera celle de mes enfants. Donc, je cherche pas à dire ça, c'est mieux que ça. Mais je pense que vraiment, c'est ce moment-là où soit tu te sens, t'arrives à dire je lâche prise et je fais confiance à cet être qui est devant moi, à cet être pour qui je me sens une volonté de faire en sorte que ça se passe bien, et même où je me sens responsable que pour lui ça se passe bien, soit je lâche et je lui fais confiance. Mais c'est aussi se faire confiance à soi en tant que parent, et c'est un travail qui est monumental, ou alors je peux pas lâcher ça, et auquel cas il faut que je me tourne vers d'autres choses. Et pour moi, c'est vraiment... si on en parle autant, c'est parce que quand on voit les nouveaux parents, les parents de jeunes enfants ou d'enfants en bas âge, c'est vraiment cette question-là qui revient de dire mais s'il ne sait pas lire à ce moment-là, si en fait il ne fait que les jeux vidéo, si en fait il ne fait que machin, qu'est-ce que je fais? Et je me sens responsable de l'adulte qui va devenir et de qui soit armé pour ce qui arrive. Et du coup, comment je me positionne moi par rapport à mes peurs qui sont présentes et qui seront toujours présentes? Et pour moi, c'est clé en fait, cette confiance-là, parce que sans ça, ça ne pourra jamais fonctionner. Et sans ça, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, à ce jour, j'ai quand même très peu d'exemples de parents, voire pas en fait, de parents qui ont continué l'école à la maison sur des âges, enfin maintenant qui sont ados ou adultes, et qui sont encore dans ce truc de... il faut qu'ils sachent lire ou compter à cet âge-là, quoi. Après, ça existe, parce qu'il reste quand même la possibilité, à ce jour, de faire des cours tous les jours, de manière vraiment académique, mais chez soi. Je veux dire, il y a plein de familles qui le font. J'ai moins de liens avec elles, parce qu'elles sont moins dans des cheminements qui sont proches des miens. Mais c'est aussi notre possibilité. Mais en attendant, sur toute la partie vraiment des scolarisations, unschooling, apprentissage autonome, et cette philosophie-là et cette pédagogie-là, c'est un moment, je pense que tous les parents que j'ai pu rencontrer, ils parlent de ce moment de déclic, en fait, de ce moment de lâcher prise, et ce moment de confiance. C'est pour ça que pour moi, le mot, il est au centre de toute cette problématique-là, enfin, de ce sujet-là.
Ah, mais c'est clair que c'est la grande crainte, et... on y répond avec André dans le premier épisode, où j'adore sa réponse, en fait, où il explique, donc pour reprendre son propos, où il explique, tiens, c'est marrant parce que quand je dis que j'étais que j'allais pas à l'école, on m'a toujours demandé à quel âge j'avais appris à compter, à lire et à écrire. On m'a jamais demandé comment j'avais appris à cuisiner, à jouer tel instrument. Et c'est vrai que je trouve que sa réflexion est super intéressante, parce que dans une société où en permanence les gens sont en train de compter, lire et écrire, enfin en permanence pratiquement si tu veux, en termes d'environnement, comment est-ce qu'on pourrait ne pas apprendre? Tu vois?
Oui, non, bien sûr.
Que tu n'apprennes pas que tu n'apprennes pas à faire le travail du bois parce que autour de toi personne n'est menuisier, oui. Mais que tu n'apprennes pas à lire, écrire et compter, c'est en fait dans nos sociétés, c'est pas possible. Tu vois, c'est ça,
oui,
le truc.
Et
puis on a ces exemples aussi assez dingues de là tu donnais ton exemple avec les tomates, mais c'est ça, c'est faut juste laisser quand l'enfant se concentre, quand l'enfant est en tâche, on a des exemples d'enfants qui ont appris à lire en 3 heures, quoi.
Oui, non, bien sûr, mais on a des exemples fulgurants, c'est une évidence, mais en attendant, moi j'ai souvenir quand même, donc dans le cadre de l'association dont je parlais tout à l'heure, les enfants d'abord. Chaque année, il y a une un gros rendez-vous annuel en été, la dernière semaine d'août, à chaque fois ça se déplace dans la France, mais donc sur un rendez-vous de toutes les familles dans un camping, etc. Donc il y a énormément de monde, et c'est aussi, comme c'est sur les périodes pour le coup de vacances scolaires, c'est aussi le moment pour des gens qui ont juste envie de découvrir ce milieu de venir. Et c'est donc voilà, c'est un événement qui est important. Et je me souviens d'une réunion, où ça parlait justement de cette notion de confiance, et d'une maman disant voilà, moi mon enfant, il a 16 ans. Et en fait, alors je sais plus si c'était la lecture ou l'écriture. C'était l'écriture. Il ne sait pas écrire. ça lance un blanc absolu, puisque du coup, depuis le début, hein, tu avais des parents qui disaient, voilà, moi j'ai un enfant qui a 7, 8 ans, il ne sait pas écrire, machin. Et elle donne son témoignage, elle dit, voilà, en fait, mon fils, il est passionné de jeux vidéo. Il est bilingue alors que je ne parle pas du tout anglais, parce que, en fait, il a besoin de parler anglais pour ses live vidéo. Il sait très bien lire parce qu'il a besoin de lire pour ses jeux vidéo, mais en fait, il n'a jamais eu besoin d'écrire, donc il n'a jamais appris à écrire. Et je pense que même moi, à cette époque, donc je devais avoir à peu près l'âge de l'enfant en question, j'ai repensé à ma vie et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je ferais si je ne savais pas écrire ? Parce que moi, à l'époque, j'étais hyper réseaux sociaux, je passais mon temps à écrire aux gens, j'avais un journal, enfin, j'ai un journal de bord depuis mes, je pense, 7-8 ans, donc j'ai toujours adoré écrire. Et donc j'étais en mode, waouh ! Et même moi, avec mon parcours, de me dire, ah non, mais ça, c'est pas possible, ça craint. Je me souviens de cette phrase de ma tête de me dire, oh, ça craint. Et en fait, juste quand tu remets les choses dans son contexte, tu te dis, mais juste, cette personne en question, elle n'a pas besoin d'écrire à ce jour. Elle est épanouie dans sa vie sans l'écriture. Par contre, c'est un fait avéré au vu de la capacité qu'il a appris à parler anglais 10 fois plus rapidement que moi, qui ne suis toujours pas capable de dire une phrase, en fait, il saura au moment où il en aura besoin. Je suis persuadée à ce jour qu'il, s'il a eu besoin, il sait écrire. Mais c'est sûr que ça choque et que ça fait peur. Voilà, pour moi, c'est enfin, j'utilise un exemple aussi, entre guillemets, impressionnant, mais parce qu'en fait, pour moi, c'est ce niveau-là de confiance-là. C'est de ce moment de dire, en fait, je me dois, en tant que parent, si je veux continuer dans cette voie-là, d'enlever toutes mes attentes qu'on m'a mis sur mes épaules quand j'étais enfant, qui ont été sur les épaules de mes parents quand ils étaient enfants, et ainsi de suite, et que moi, je porte le sac à dos de ces attentes de mes grands-parents, parents et titi-quanti, que je vais déposer sur ceux de mon enfant, et qu'on se donne un espèce de fardeau absolument indigeste et beaucoup trop lourd. Et c'est ce moment de décider, en fait, je vais décider d'alléger mon sac à dos, mais c'est pas du tout facile, en fait. Et cette confiance-là, elle va au-delà de se dire, bon, bah, il apprendra à lire le mois prochain. Non, en fait, cette confiance-là, elle va de dire, eh ben, il apprendra bien ce qu'il a envie au moment où il en a besoin. Mais c'est hyper compliqué. Et honnêtement, je tire mon chapeau à mes parents et à tous les parents qui ont réussi le faire, parce que je me sens, à ce jour, bien incapable de faire la même chose le jour où je serai maman. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour ce parcours-là.
Non, mais c'est sûr que tu sais, c'est là où il y a la limite. Mais c'est marrant parce que là, tu vois, tu as des mots qui résonnent beaucoup en moi, même si je crois profondément au fait d'essayer de laisser sortir ce qu'il y a dans un être au lieu d'essayer de mettre des choses dedans. C'est vrai qu'à un moment, socialement, dans notre construction, il y a des choses où on se dit non, mais quand même, là, faut pas déconner, quoi. Mais ouais, non, c'est super intéressant. J'ai une question qui se pose. C'est une question que tu as dû tellement entendre, je pense. C'est, mais alors, la sociabilisation, comment ça s'est passé ?
Je pense que j'étais 10 fois plus sociable à l'époque de l'école à la maison qu'aujourd'hui. Mais alors vraiment, hein, c'est flagrant. D'accord. Du coup, non, au niveau de la sociabilité, moi, j'ai vraiment eu mes parents déjà qui ont fait en sorte que j'ai un environnement hyper riche à ce niveau-là. Et alors, ce qui est drôle, c'est que souvent, quand on parle de sociabilité, on parle d'enfant à enfant, donc de copains du même âge. Or, pour moi, la sociabilité est beaucoup plus vaste que ça. La sociabilité, elle en va du matin d'aller à la boulangerie, au marché du samedi, moi, c'était que des environnements qui amenaient à une sociabilité et qui étaient hyper enrichissants pour moi. Je me souviens d'une époque où je me suis passionnée pour les billes de verre, là, et que j'en distribuais à tous les gens que j'avais envie. Alors, ça pouvait être le poteau du bar du village à la marchande de fruits et légumes, et du coup, je leur donnais des billes comme si je leur donnais le trésor le plus précieux absolu. Donc, tout ça, c'est des moments de sociabilité qui sont hyper importants pour moi, et que j'avais beaucoup plus puisque je faisais les courses avec mes parents, etc. Après, il y a eu donc l'association dans laquelle je parlais, où j'ai vraiment eu des amitiés très fortes avec des enfants de mon âge et du coup, adolescents, les premiers amours, les premiers machins, enfin voilà, vraiment une espèce de colonie de vacances sur 10 ans, quoi. Et puis après, moi, j'ai des amitiés qui sont hyper importantes pour moi aujourd'hui, mais qui sont des adultes. Et qui, du coup, on a toujours eu 20 ans d'écart, quoi. Et qui, pourtant, sont des gens qui ont beaucoup d'importance pour moi. Voilà, c'est des, enfin, c'est des amis importants. Donc, voilà, y a ça. Et puis parce que j'ai pas cherché, enfin, j'avais pas ce critère d'âge, en fait. Dans ma sociabilité, le critère d'âge, j'y rentrais pas en considération. Et j'ai souvenir d'une situation avec ma maman. On venait soutenir une famille qui était en difficulté par rapport à ce choix-là. Et donc, il y avait 5-6 familles qui étaient venues avec des banderoles et des flyers pour expliquer l'IEF. Et donc, dans ces familles, il y avait un enfant exactement du même âge que moi. Il faut savoir que je fais quand même partie d'une génération où on était quand même relativement une minorité par rapport à aujourd'hui. Et donc, sur la ville de Montpellier, typiquement, il y avait énormément de très jeunes, de bébés, et très peu de grands. Donc, moi, à l'époque, j'avais une dizaine d'années. Donc, il y avait très peu d'enfants de 10 ans sur des régions. Or, aujourd'hui, je trouve quand même qu'à ce niveau-là, c'est beaucoup plus facile de trouver des familles du même âge à proximité parce qu'il y a quand même beaucoup plus de familles
Oui, tout à fait.
qui le font. Mais bon, du coup, à l'époque, il y avait un enfant de 10 ans et c'était tellement exceptionnel que ma mère est partie bille en tête que devions devenir les meilleurs amis du monde. Donc, il y a eu ce moment très gênant de nos deux parents qui se sont mis en tête qu'on allait devenir amis, donc qui ont fait toute une organisation pour qu'on passe que du temps ensemble. Or, on n'avait absolument rien en commun, on n'avait pas envie d'être ensemble. Je ne sais plus, pas. C'était un garçon et je ne sais même plus son prénom, mais je me souviens que c'était absolument extrêmement gênant pour nous deux, parce qu'on se regardait un peu dans le blanc des yeux en mode mais qu'est-ce qu'ils veulent bien qu'on dise? On n'avait pas les mêmes centres d'intérêt, enfin rien n'allait. Et je sais très bien que pour ces deux mamans, ça venait vraiment d'un espèce de cri du cœur de dire ah, une bouffée d'oxygène à notre enfant du même âge que mon enfant à moi. Mais c'était un loupé. Et j'adore cette anecdote parce qu'elle est très mignonne et que je l'aime beaucoup. Mais tout ça pour dire que voilà, ma sociabilité, elle a été au-delà d'enfants de mon âge. Et par la suite, quand j'ai eu besoin d'amitié de mon âge, je les ai trouvés et créés par d'autres biais, et notamment les activités extrascolaires, ça en fait partie. Mais voilà, dans d'autres situations. Et c'est drôle parce que je pense que maintenant, à ce jour, des fois, je regrette un peu ce côté bande de toujours avec qui on a fait l'école primaire, le collège, le lycée, le machin. Et que du coup, enfin, quand je compare à d'autres gens que je côtoie au quotidien, je me dis, bah, voilà, moi, j'ai pas une espèce de bande pour qui aller en soirée ou faire la fête ou machin. Mais de manière vraiment très, très honnête avec moi-même, c'est aussi parce que je l'ai jamais cherché et que j'ai toujours eu ce côté un peu dans ma bulle et dans. C'est un truc, enfin, que j'ai jamais fait en sorte d'avoir des liens d'amitié hyper forts avec plein de gens autour de moi. Et que du coup, en fait, je suis persuadée que, école ou pas école, si j'avais eu ce besoin et cette envie, je l'aurais créé. Juste, c'est pas parce que j'ai mis en place. J'ai pris du temps pour d'autres choses que ça.
C'est une belle anecdote, en tout cas, c'est une belle réponse. Merci. On arrive au bout
Ben
du
ouais.
podcast.
J'ai
Ouais,
beaucoup
Zia,
parlé,
ouais, ça fait.
hein.
À moins que tu aies un sujet particulier que tu souhaites aborder.
Non, pas forcément. Est-ce que je peux faire un instant promo?
Un instant
Non,
promo, si tu veux.
tout simplement que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai à cœur que l'école à la maison soit un chemin et pas une obligation, mais que ce soit une porte qui puisse être ouverte. Et à ce sens-là, j'ai créé avec mes petites mains et un non-savoir important, différentes plateformes, différents lieux de cheminement, dont du coup un court métrage qui s'appelle Des voix hors école, voix VOX, qui est sur YouTube, qui est très mal fait d'un point de vue son, d'un point de vue plein de choses, mais qui a le mérite d'exister et que j'ai fait avec une petite caméra et un trépied fait à base de livres. Donc voilà. Et après, il y a un compte Instagram qui a le mérite d'exister aussi, même s'il est très peu fourni. Mais bon, en tout cas, c'est un lieu où on peut facilement venir me parler et qui s'appelle du coup Une autre voix. Et où il ne faut pas hésiter à venir parce que c'est presque un combat pour moi en fait. C'est pas un combat de prôner l'école à la maison, mais c'est un combat pour moi de prôner que ça existe et de dire juste, bah voilà, c'est possible, mais ça n'oblige à rien. Et y a plein de choses qui vont pas, qui sont compliquées et qui sont dures, mais ça existe. Et c'est important pour moi. Voilà. C'est tout.
Ok,
J'arrête mon
super.
auto-promo.
Et je confirme, mais je confirme pour avoir vu le documentaire et pour connaître ton profil Instagram que c'est chouette. En tout cas, moi, j'ai passé un chouette moment à la regarder. Et j'ai aussi passé un chouette moment à discuter avec toi. Merci beaucoup, Isia.
Merci. Et
À
merci pour ce que
bientôt.
tu fais aussi. C'est vraiment chouette.
Merci, ouais. Merci à toi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hop, c'est encore moi. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.